Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du mercredi 30 novembre 2016. Au sommaire ce soir, Gabi.
Au Mali, report du procès Aya Sanogo, les audiences devraient reprendre bientôt.
L'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, ne s'est pas présentée à nouveau à son procès pour crime contre l'humanité.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, va se mettre en retrait de son empire immobilier avant de prendre ses fonctions le 20 janvier prochain.
Et bien sûr, les sports et l'économie, juste après le journal.
Ici Chérubin, Gabi Dorsil, en compagnie d'Anastasie Tudiech. Bienvenue dans Le Monde, aujourd'hui sur VOA Afrique.
Au Mali, le procès de Amadou Aya Sanogo, les avocats de la défense ont demandé et obtenu une suspension de 24 heures des audiences. Les 17 accusés ont répondu présents à la barre, aujourd'hui avec leurs avocats et ceux de la partie civile. Le point avec Kassim Traoré.
Dès l'entame de cette session, les avocats de la défense ont demandé une suspension de 48 heures. Le président de la cour a accordé 24 heures. Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat de Amadou Aya Sanogo.
Les accusés n'ont pas eu le temps de conférer avec leurs avocats et donc cette suspension va leur permettre de discuter, de s'entendre sur la stratégie de défense.
Les avocats des victimes ne sont pas opposés, mais ils ont aussi des inquiétudes. Maître Clémence Berthaud, du collectif des avocats des victimes.
Encore une fois, que ce ne soit pas une manœuvre pour ensuite revenir vendredi et cette fois-ci demander un report ou demander une nouvelle suspension. Qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse entrer dans le fond des débats.
Le directeur général d'Amnesty Mali n'est pas contre la demande formulée par les avocats de la défense. Saloum Traoré.
La défense, avec la dispersion de leurs clients dans le pays, ils n'ont pas pu prendre le temps réel de pouvoir les rencontrer pour parler avec eux. Après les 24 heures, le procès va continuer.
Sikasso, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Attaque aujourd'hui contre l'ambassade des États-Unis à N'Djamena, au Tchad. Notre correspondant sur place, c'est André Kodmajingar.
Il était environ 6 heures du matin, heure locale, ce mercredi, lorsqu'un jeune homme de nationalité tchadienne, âgé de 29 ans, armé de Kalachnikov, s'est fait déposer par une moto-taxi devant l'ambassade. Du coup, il commence à tirer à balles réelles en direction de l'entrée principale de l'ambassade, tout en criant « Allah Akbar » en arabe qui signifie « Dieu est grand » sans atteindre sa cible. Maîtrisé par les forces de l'ordre, il a été conduit aux renseignements généraux où l'ordre a été donné aux agents de services de sécurité d'aller perquisitionner sa maison. Selon le directeur général de la police nationale, le général de brigade Tahir Erda, le suspect serait un drogué venant de la Libye. Des documents et ordinateurs saisis dans sa chambre prêtent allégeance à l'État islamique. Mais le responsable du service de sécurité parle d'un acte isolé qui n'a rien à voir avec le terrorisme. Toutefois, l'enquête suit son cours, informe le directeur des renseignements généraux. À l'heure actuelle, ni les autorités en charge de la sécurité publique, ni l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, personne ne connaît son intention réelle. La sécurité autour de l'ambassade est renforcée et les Ndjamenois vaguent normalement à leur occupation quotidienne. André Kodmajingar Ndjamena pour VOA Afrique.
En Afrique du Sud, les premiers volontaires ont reçu aujourd'hui l'injection d'un vaccin expérimental contre le sida. Même s'ils sont récents à afficher leurs objectifs, les chercheurs espèrent que le taux d'efficacité de leur vaccin prototype atteindra au moins le seuil de 50%. Il sera testé pendant les 4 prochaines années sur 5400 Sud-Africains, hommes et femmes, âgés de 18 à 35 ans. L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus touchés au monde par le VIH avec un taux de prévalence de 19,2%. Chaque jour, un millier de personnes sont contaminées. Les traitements antirétroviraux ont permis de ralentir l'épidémie et d'augmenter significativement l'espérance de vie des malades. Mais ils ne sont encore accessibles qu'à une petite moitié de la population sud-africaine déjà infectée.
Afrique du Sud toujours, le corps sans vie d'un passager clandestin a été retrouvé ce mercredi dans la soute d'un train d'atterrissage d'un Airbus A330-200. Une enquête est en cours pour déterminer comment le passager clandestin a pu se cacher dans la soute. A-t-on précisé, ces dernières années, plusieurs passagers clandestins nigérians ont été retrouvés morts de froid ou écrasés par une roue sur les avions faisant la liaison entre Lagos et Johannesburg ou encore New York.
Une recrudescence des violences à caractère ethnique au Soudan du Sud est à craindre, ont prévenu aujourd'hui des experts en droits de l'homme de l'ONU. Le pays est en proie à la guerre civile depuis décembre 2013. Il y a des niveaux sans précédent de violence et de tensions ethniques partout au Soudan du Sud, a déclaré Yasmine Souka, la chef d'une délégation du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, lors d'une conférence de presse à Juba, au terme d'une mission de 10 jours dans le pays. toute notion d'identité nationale s'effondre et l'identité tribale ou ethnique prend le dessus. Je n'ai pas cessé d'entendre parler du désir de revanche, a-t-elle constaté. Indépendant depuis 2011, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2,5 millions de déplacés.
Le Maroc a dénoncé ce mercredi l'attitude de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Dans un communiqué particulièrement virulent, le ministère des Affaires étrangères accuse la sud-africaine Kossa Zana Dlamini Zuma de tenter de contrarier la décision du Maroc de regagner sa place naturelle et légitime au sein de sa famille institutionnelle panafricaine.
L'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, ne s'est pas présentée aujourd'hui à son procès pour crime contre l'humanité, au lendemain d'échanges houleux entre elle et le président du tribunal. Le point de départ des échanges a été le rejet par la Cour de la demande de la défense, à savoir la comparution des nombreuses personnalités de la crise ivoirienne, dont l'actuel président de l'Assemblée nationale et ancien chef de la rébellion, Guillaume Soro, l'ancien premier ministre Jeannot Kouadio-Aoussou, l'ancien ministre Charles Kofi Dibi et l'ancien chef de l'armée, le général Philippe Mangou.
En République démocratique du Congo, au sud Kivu, 33 ex-combattants des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, et 83 de leurs dépendants ont été rapatriés au Rwanda de janvier à novembre 2016, plus de 12 000 depuis 2002, selon le porte-parole de la MONUSCO.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, au lendemain du crash en Colombie de l'avion qui a décimé l'équipe de foot des Chapecoense, faisant au moins 71 morts, le Brésil a déclaré 3 jours de deuil national. Une enquête a été ouverte. Claire Morin-Gibourg.
Les hommages se multiplient au Brésil pour les joueurs de foot de cette ville du sud brésilien qui venait de se qualifier en finale de la Coupe sud-américaine pour la première fois de l'histoire du club. À Chapeco même, des fleurs et des cierges ont été déposés dans les vestiaires de ce petit club par les supporters qui se disent hébétés. La presse brésilienne rend un vibrant hommage aux disparus. Pour le quotidien O Globo, cette tragédie émeut la planète et endeuille le football. En Colombie, l'enquête a commencé. Les 2 boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées intactes. Elles devraient permettre de comprendre les causes du crash. Des sources militaires évoquent un manque de carburant. Pour l'aviation civile, il s'agit d'une défaillance technique.
Le président élu américain Donald Trump va se mettre en retrait de son empire immobilier avant de prendre ses fonctions en janvier prochain. Les nominations de membres de son cabinet se poursuivent. Précision, John Lennon.
Dans une série de tweets, Donald Trump a précisé qu'il s'exprimera à New York le 15 décembre lors d'une conférence de presse en présence de ses enfants. Elle portera, précise Monsieur Trump, sur sa décision de quitter sa formidable entreprise afin de se concentrer entièrement et totalement à la direction du pays et de redonner à l'Amérique sa grandeur. Il a par ailleurs réaffirmé que légalement, il n'a aucune obligation de s'isoler de la gestion de son entreprise. Une façon pour lui de répondre aux nombreuses questions de conflit d'intérêts soulevées par son arrivée à la Maison-Blanche. Donald Trump a aussi procédé ce mercredi à la nomination de 2 membres de son cabinet, Wilbur Ross au ministère du Commerce et Steve Mnuchin au Trésor. Steve Mnuchin, 53 ans, se voit ainsi récompensé de s'être rallié à Donald Trump au moment où les gros donateurs du Parti républicain, tels les milliardaires Fred Koch, s'en détournaient.
Les représentants de la Russie et de groupes rebelles syriens se sont rencontrés à Ankara pour discuter de l'instauration d'une trêve à Alep. C'est ce que rapporte l'AFP, citant une source proche des factions syriennes. La dernière rencontre s'est tenue lundi dans la capitale turque, ajoutait cette source, sans préciser le niveau des représentants qui y ont participé. Les groupes syriens représentés à ces discussions sont ceux liés à la principale coalition de l'opposition syrienne et ne comprennent pas les djihadistes de l'ancien front al-Nostra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le nombre de combattants anti-régime dans Alep est de 15 000, dont 400 de ce groupe djihadiste. Alep est devenu le principal front du conflit syrien qui a fait plus de 300 000 morts en 5 ans.
En Irak, l'ONU fait état d'une situation catastrophique à Mossoul, la 2e ville du pays où s'affrontent forces irakiennes et djihadistes. Déjà victime d'une pénurie de vivres et d'électricité, des centaines de milliers d'habitants de Mossoul sont désormais privés d'eau, a déclaré aujourd'hui la coordination des opérations humanitaires de l'ONU en Irak.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco tout de suite avec Morgane Guiriec.
Le coton ouest-africain reprend du volume. La récolte qui vient de démarrer s'annonce exceptionnelle. Et les volumes devraient augmenter de 14% pour atteindre plus d'un million de tonnes de fibres, selon le Comité consultatif international du coton. Au Burkina Faso et au Mali, cette progression devrait être d'au moins 25%. Le Rwanda lève 350 millions de dollars pour augmenter ses capacités électriques. Ce financement servira à la construction d'une centrale électrique dans le marais d'Akanyaru qui sera alimentée en tourbe, une matière organique fossile faite de végétaux morts. Son entrée en fonction prévue en 2020 devrait permettre de produire 80 mégawatts supplémentaires. Crise économique au Zimbabwe, la nouvelle monnaie est accueillie avec scepticisme. La police a réprimé une manifestation contre la mise en circulation de billets d'obligation destinés à pallier la pénurie de liquidités.
Place à l'actualité sportive, présentée ce soir par Nicolas Pinault. Salut Nicolas.
Bonjour Chérubin.
Suite du tournoi de l'UEMOA au Togo.
Les derniers matchs du groupe A et nouvelle défaite du Togo battu au stade municipal de Lomé 2 buts à 1 par le Niger. Qualification pour la finale, la grande finale du tournoi du Mali qui a battu la Côte d'Ivoire 1 but à 0. À suivre demain les derniers matchs du groupe B, le Sénégal face à la Guinée-Bissau et le Burkina Faso contre le Bénin.
Parlons également de la CAN féminine 2016, les demi-finales.
Oui, on rappelle que le pays organisateur, le Cameroun, se qualifie pour la finale en battant le Ghana 1 but à 0. Le Cameroun qui affrontera samedi les championnes d'Afrique en titre, les Nigérianes, qui ont battu les Sud-Africaines 1 but à 0.
Diafra Sakho s'est à nouveau blessé en Angleterre, n'est-ce pas ?
L'attaquant sénégalais s'est à nouveau blessé dimanche en championnat avec West Ham United. Il manquera vraisemblablement plusieurs semaines à l'équipe, à commencer par le match de ce soir contre Manchester United en Coupe de la Ligue. Sakho revenait tout juste d'une longue blessure qui lui avait fait manquer le début de saison avec les Hammers.
Gareth Southgate prolongé de 4 ans comme sélectionneur de l'équipe d'Angleterre.
La fédération anglaise annonce avoir choisi de maintenir Gareth Southgate comme sélectionneur. Nommé en septembre après la démission forcée de Sam Allardyce, Southgate devait assurer un intérim de 4 matchs jusqu'au 15 novembre. Son bilan, une victoire 2-0 contre Malte, un nul contre la Slovénie et un succès convaincant contre l'Écosse, 3 buts à 0 ainsi qu'un match nul 2 buts partout contre l'Espagne.
En basketball, quelques résultats de la NBA, le championnat nord-américain.
Au terme d'un match bizarre et fou marqué par l'expulsion de Doc Rivers, les Nets de Brooklyn ont battu les Clippers de Los Angeles en double prolongation 127-122. Le Utah Jazz a signé une quatrième victoire consécutive en s'imposant sur son parquet face à Houston 120-101. Les mal classés ont pris leur revanche, victoire d'Orlando sur San Antonio 95-83. Défaite de Cleveland, le champion en titre chez Milwaukee, 118-101. Enfin, Détroit qui bat Charlotte, 112-89.
Voilà pour les sports ce mercredi. Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Merci d'écouter VOA Afrique, c'est Le Monde aujourd'hui avec Chérubin Gaby Dorsil et Anastasie Tudiech. Place tout de suite au dossier du jour et la première escale se fait en Gambie.
Les Gambiens se rendent aux urnes demain pour élire leur président pour les 5 prochaines années. Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, aura comme principal adversaire l'homme d'affaires Adama Barrow, soutenu par 9 partis d'opposition. La CEDEAO et l'Union européenne n'ont pas envoyé d'observateur alors que l'Union africaine a déployé une mission à Banjul. Cette élection peut-elle changer la donne en Gambie ? Réponse avec Fatou Diagne Senghor de l'ONG Article 19 au micro d'Adou Arman Dia.
Tout dépendra des urnes demain, mais ce qui est sûr, le changement est déjà intervenu. Changement intervenu dans le sens où pour la première fois, les partis les plus importants de l'opposition se sont mis ensemble. Je pense que c'est une symbolique importante. L'autre chose, je pense que la peur s'est beaucoup amenuisée. On a vu que les populations, quand même, sont sorties en masse pour soutenir la coalition. Et je pense que c'est important dans un pays comme la Gambie où l'expression est bâillonnée, où l'opposition n'avait que peu d'espace pour s'exprimer, de voir toutes ces foules sortir avec l'espoir de vouloir changer avec leur carte la donne. Nous espérons seulement que demain, le verdict des urnes sera respecté.
Des modifications ont été apportées pour éviter, dit-on, la fraude. Et, par exemple, le décompte se fera sur place. Est-ce qu'on peut compter sur un scrutin transparent cette fois-ci?
Il est difficile de le dire parce que, vous savez, les gages de scrutins transparents sont multiformes. D'abord, la présence d'observateurs indépendants et, comme vous le savez sûrement, aujourd'hui, la plupart des observateurs indépendants crédibles ne participeront pas à ce processus. Le consensus qu'on attendait que la commission électorale allait essayer de bâtir avec les différentes parties prenantes, ce consensus n'a jamais eu lieu. Il y a beaucoup d'unilatéralisme autour de tout ce processus. Le fichier électoral n'est pas un fichier consensuel. Il y a eu des rumeurs d'enregistrement en faveur du parti au pouvoir au-delà des délais. Et aujourd'hui, l'opposition n'a pas une visibilité claire, une visibilité sur ce fichier. Les signaux sont très rouges. Nous sommes très inquiets par rapport à des possibilités de violence. Mais nous espérons que le verdict du peuple sera respecté.
On écoutait Fatou Ndiaye Senghor de l'ONG Article 19.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. L'influence de Fidel Castro sur l'Afrique après la récente disparition de l'ancien président cubain. Héros pour certains, mais dictateur pour d'autres. Le père de la révolution cubaine est connu pour avoir soutenu des luttes de libération sur le continent africain, particulièrement en Afrique australe. Que pensez-vous de son impact sur l'Afrique? Le rapprochement États-Unis-Cuba prendra-t-il d'autres tournures avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
L'opposant congolais Moïse Katumbi se trouve aux États-Unis alors que la date du 19 décembre approche en République démocratique du Congo, sans élection ni nouveau président en vue à Kinshasa, puisque Joseph Kabila n'a toujours pas dévoilé ses intentions. L'ex-gouverneur du Katanga affirme qu'il va bientôt rentrer au pays, mais ne donne aucune date. Il affirme qu'il ne voulait pas gêner la CENCO avec son retour. Nicolas Pineau l'a rencontré pour VOA Afrique, écoutons-le.
C'est triste d'abord pour notre pays, le président Kabila a tout fait pour ne pas organiser l'élection présidentielle, mais j'espère, il reste encore 3 semaines, le président Kabila peut sortir par la grande porte en laissant la démocratie avancer dans notre pays, en laissant la première alternance au peuple congolais et suivre la voie du peuple congolais, parce que la voie, c'est le respect de notre constitution. Pour sauver le pays, la CENCO est en train de consulter le Rassemblement et les autres forces vives de la République et la majorité présidentielle pour avoir un compromis. S'il n'y a pas de compromis, nous allons faire respecter la Constitution. C'est la clé même de notre pays. Donc le 19 décembre, le président Kabila ne sera plus président de la République.
Que pensez-vous de la nomination de ce Premier ministre, Sami Badibanga?
Vous savez, d'abord, je ne veux pas parler du Premier ministre. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'accord. Parce que ici, il y a les négociations de la CENCO. Le président Kabila venait de nommer le premier ministre. Est-ce qu'il vient de nommer le premier ministre pour arrêter les négociations avec la CENCO pour faire respecter notre constitution? Moi, je crois que c'est un morceau très difficile. Il pouvait bien laisser l'ancien premier ministre parce qu'il reste que 3 semaines maintenant pour la fin du mandat du président Kabila. Je ne veux pas entrer dans des polémiques parce que Sami Badibanga, c'est aussi un ami à moi. Donc c'est quelqu'un que je connais. Le plus important pour moi, c'est la première alternance au pouvoir. Nous devons respecter la constitution. S'il n'y a pas d'accord, le peuple va récupérer le pouvoir. nous allons libérer le pays. Nous n'allons pas accepter qu'un groupe d'individus s'éternise au pouvoir, continue à maltraiter le peuple congolais. Le peuple congolais a besoin de vivre librement, le sang a beaucoup coulé, surtout les deux dernières années. Et qui est l'auteur du sang qui coule? Aux Congolais de me répondre. Et nous n'allons pas nous laisser faire.
Vous êtes toujours hors du territoire congolais. Quand allez-vous rentrer?
Je devais normalement rentrer avec le président Tshisekedi ensemble. Si je suis resté ici, parce que j'avais un grand travail à faire. Parler avec tout le monde de la communauté internationale, voyager dans beaucoup de pays pour trouver une solution pacifique, pour avoir un appui. La date de mon retour est pour bientôt. Je ne voulais pas aller pour bloquer les négociations avec la CENCO pour qu'il puisse y avoir de troubles.
C'était Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Nouveau code au Gabon pour que les journaux ne soient plus des outils de combat politique. L'annonce a été faite hier par le ministre de la Communication, Alain-Claude Billier-Binzier. Début novembre, des employés du journal Les Échos du Nord avaient été interpellés à la suite d'un article sur l'arrestation présumée du général Célestin Mbinga, directeur de la documentation et de l'immigration. Nathalie Barge a demandé au ministre si le nouveau code avait un lien avec cette affaire.
Un pays ne va pas aller légiférer pour des anecdotes de cette nature. Le secteur de la communication est en pleine évolution dans notre pays. Il était important de repréciser le cadre général dans lequel ce secteur doit pouvoir se dynamiser. Avec les nouvelles évolutions, il est aussi important de redéfinir le rôle, le métier de journaliste. Donc ce sont ces éléments-là qui ont été pris en compte, mais ça n'a rien à voir avec une quelconque conjoncture. D'ailleurs, le code de la communication était en circuit depuis un an, donc bien avant la question des Échos du Nord que vous évoquez. On a légiféré d'ailleurs, j'aurais dû vous le préciser, que c'est à la demande des journalistes eux-mêmes réunis dans le cadre des États généraux de la communication au Gabon, il y a maintenant 4 ans, qui ont sollicité cette nouvelle loi. Et donc le gouvernement a mis en chantier cette loi depuis 3 ans. Elle a commencé il y a un an avec un projet d'ordonnance et puis finalement elle a abouti par une loi ordinaire qui a été prise il y a juste quelques semaines.
Alors est-ce que vous avez justement pu noter divers dérapages au niveau du journalisme au Gabon ces dernières années?
Les dérapages sont nombreux mais sont liés d'abord à un problème de formation. La plupart de ceux qui aujourd'hui embrassent ce métier n'ont pas été formés pour. Et donc c'est un métier qui demande quand même de la rigueur. Donc, il nous manque de la rigueur dans le traitement de l'information. La diffusion des rumeurs, aujourd'hui, apparaît comme l'élément essentiel. Alors que vous connaissez bien ce métier, c'est un métier qui demande quand même de la rigueur, de la vérification, même si par ailleurs, et la loi le confirme, on protège les sources du journaliste. Et donc, les dérapages, c'est aussi des appels à la haine, des appels à la violence, des appels au meurtre, des appels à l'éradication de communautés entières qui sont retransmis à travers la presse en ligne, la presse écrite, certaines radios et certaines télévisions. Donc des situations qui, sous d'autres cieux, ont conduit à des catastrophes que chacun a déplorées. On n'a pas envie de vivre ça au Gabon.
Est-ce que le journaliste de la presse privée a facilement accès à toutes les affaires de l'État, notamment?
Il y a des affaires classifiées de l'État. Et il me semble qu'en France, aux États-Unis, il y a des niveaux de classification auxquels le journaliste n'a pas accès nécessairement. Il faut attendre la déclassification. Et donc, si vous voulez parler d'affaires concernant la sécurité de l'État, personne ne va y avoir accès, ni journaliste public, ni journaliste privé. Maintenant, l'information concernant la gestion des affaires publiques, la gestion des deniers publics, etc., chacun a accès à ces informations-là.
Pour ce qui était de la rumeur annoncée par les Échos du Nord au sujet de l'arrestation présumée d'un chef du renseignement, est-ce que vous pensez que sa rumeur était ciblée ou qu'elle était innocente?
Ce que je sais de ce monsieur, c'est que c'était militant et que son journal est un organe militant. C'est un organe politique. Et donc, la rumeur qu'il a lancée, elle était ciblée, elle était voulue, elle avait vocation à déstabiliser un pan de l'État. Voilà, donc c'était voulu.
Voilà, c'était Alain-Claude Billier-Binzier, porte-parole du gouvernement gabonais.
Le Rwanda a annoncé hier mardi l'ouverture d'une enquête sur le rôle de 20 responsables militaires français dans le génocide de 1994. Saloua Jafari a joint à Bruxelles Maître Innocent Touagira Mungu, avocat qui s'est occupé du dossier rwandais.
En représailles, l'État rwandais dit, écoutez, si vous réouvrez l'enquête française, nous aussi, nous allons commencer à vous inquiéter. Je crois moi-même intimement, parce que j'ai suivi ce dossier, je crois que les manœuvres de l'État rwandais qui visent à inculper les militaires français, les accusant de complicité dans le génocide, je crois que ce sont des manœuvres qui visent à intimider la France pour que la France ne poursuive plus ce dossier contre les autorités rwandaises qui sont suspectées dans ce dossier. Et je pense que ce sont des manœuvres désespérées. Vous avez suivi le ministre de la Défense de la France, évidemment, qui a exprimé que cette demande d'entraide judiciaire qui est demandée par le procureur général du Rwanda, donc à son homologue français, pour qu'il puisse entendre les militaires français concernés à l'ambassade du Rwanda à Paris, et qu'évidemment, ces manœuvres, ces accusations ne sont pas tolérables. On ne peut pas s'imaginer un seul instant que la France ait pu concocter le génocide ou bien être un architecte ou jouer une complicité avec la France.
Comment voyez-vous le développement et l'aboutissement de cette affaire, à votre avis?
L'aboutissement de cette affaire, c'est ce que craignent beaucoup de familles et de victimes françaises, principalement parce que ce sont elles qui sont à l'origine de l'action publique, donc de l'enquête française. C'est que les victimes françaises craignent que la France, évidemment, puisse reculer, puisse sacrifier la justice pour les intérêts politiques de bonnes relations avec le Rwanda ou de bonnes relations avec certaines puissances qui aident le pouvoir rwandais. Et donc, puisse y avoir un jeu politique donnant-donnant pour enterrer cette enquête française. Et je pense que le Rwanda, évidemment, avec cette musculation d'accuser les militaires français de complicité avec le génocide. Et vous avez vu récemment, on menace aussi de sortir encore une liste des officiers français, donc civils cette fois-ci.
L'avocat Innocent Twagira Mungu.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition qui a été mise en onde par Georges Léonard Sagnot avec l'assistance technique de Wagner Robert à la console, présentation Anastasie Tudièche et Gabi Dorsine.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'avoir choisi VOA Afrique et rendez-vous sur Facebook et voaafrique.com pour plus d'informations et des vidéos 24 heures sur 24.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.